Et c'est le journal de Charlotte Piret, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Des milliers de fûts, dont certains hautement toxiques, à évacuer, et si ce n'est des milliers, au moins des dizaines de questions encore. Un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, l'opération de nettoyage débute aujourd'hui, alors que le PDG de l'entreprise s'apprête à être entendu par les parlementaires. Une victoire certes, mais sans panache. Justin Trudeau sauve les meubles et son poste de Premier ministre. Nous serons en direct du Canada dans ce journal. Exxon Mobil sur le banc des prévenus aux États-Unis, soupçonné d'avoir trompé ses investisseurs sur l'impact du changement climatique. Les retraites, l'assurance chômage en débat pour le gouvernement avec votre invité à 8h20, Nicolas.
Il s'agit de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dans le grand entretien du 7-9 d'Inter. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 01 45 24 7000.
Dans l'actualité du jour également, un enfant qui meurt sous les coups et un voisin renvoyé devant la justice pour ne pas avoir suffisamment alerté. Emmanuel Macron en vol pour Mayotte, voyage consacré à l'immigration clandestine. Et puis, sombre, touchant et tellement juste à la fois, dans son dernier film, Ken Loach s'attaque à l'ubérisation de notre société.
France Inter.
Opération très délicate que celle qui débute aujourd'hui à Rouen. Près d'un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, près de 1400 fûts métalliques vont quitter le site, dont 160 contenant des antioxydants toxiques et donc bien plus difficiles à traiter. Leur manipulation sera entièrement robotisée. Voilà pour le site de l'usine lui-même. Pour l'ensemble de la ville et ses alentours, d'autres questions se posent encore. Celle des indemnisations notamment, si les agriculteurs pourront bénéficier d'un organisme dédié chargé d'étudier leur demande et de gérer les fonds, estimés à près de 50 millions d'euros. Pour les habitants, commerçants ou collectivités locales, c'est un processus bien plus lent et bien plus incertain. Rémi Brancato.
L'agriculture n'est pas la seule activité impactée par l'incendie de Lubrizol en centre-ville de Rouen. Isabelle tient une boutique de prêt-à-porter.
On a une baisse de chiffre d'affaires entre 30 et 40% depuis le 26 septembre. Les rues sont vides. On se croirait pendant les vacances du mois d'août quand tout le monde est en... à la mer.
Les commerçants assurent avoir perdu 80% de chiffre d'affaires les premiers jours et encore 15% en ce moment. Fabrice Antoncic, le président de l'association des vitrines de Rouen, a pu le dire au préfet la semaine dernière.
On a eu du mal à se faire entendre au démarrage concernant les dispositifs d'indemnisation, mais on est rentré dans le dispositif. On veut simplement que notre marge soit remboursée à l'euro près.
Impossible de chiffrer ce que Lubrizol devra rembourser. Pour faire le calcul des pertes, la Chambre de commerce et d'industrie a envoyé un questionnaire aux entreprises. Les collectivités, elles, ont jusqu'à vendredi pour envoyer leur facture au préfet.
Je fais le calcul de tout ce que nous avons pu dépenser.
Catherine Flavigny, la maire de Mont-Saint-Aignan, au nord de Rouen, a dû faire nettoyer les écoles, les aires de jeu et changer l'eau de la piscine.
100 000 euros, c'est une dépense qui est très importante par rapport à un budget d'une ville de à peine 20 000 habitants. C'est une énorme dépense.
Sans compter les analyses de la pollution des mairies ou bien encore de l'État, Lubrizol devra les payer. Et il y en aurait pour plusieurs millions d'euros.
Voilà, qui dit indemnisation interroge donc sur la participation que prendra la société Lubrizol. Son PDG Éric Schnour est entendu aujourd'hui par les parlementaires devant la commission d'information de l'Assemblée nationale ce matin, puis la commission d'enquête sénatoriale à 15h, commission présidée par Hervé Maurey, qui a de nombreuses questions à poser au PDG mais aussi aux différents ministres concernés. Il est au micro de Mathilde Munoz.
Est-ce que la réglementation des sites Céveso est toujours adaptée? Est-ce qu'elle est bien appliquée? Est-ce qu'il faut la faire évoluer? Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont on donne l'alerte dans notre pays est digne de notre époque? Le préfet de région lui-même a reconnu que les sirènes en pleine nuit ou même en début de matinée, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre à plat, parce que ce que l'on souhaite, c'est à partir de cet événement, faire en sorte que l'on en tire des conséquences et pas, comme ça arrive trop souvent, qu'une fois l'émotion retombée, eh bien on laisse ce sujet de côté sans avoir fait en sorte de prendre des mesures si possible pour éviter une nouvelle catastrophe, et au moins, si une nouvelle catastrophe devait arriver, faire en sorte que l'on réagisse mieux. Il y a aussi toutes les règles en matière d'urbanisme. Quand on voit qu'on construisait un éco-quartier à quelques encablures de ce site, ça laisse à réfléchir.
Hervé Maurey, président de la commission d'enquête sénatoriale sur l'incendie de Lubrizol, était l'invité de 6h20 sur France Inter. Son interview complète est à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 8h06, Charlotte, les premiers résultats des élections au Canada.
Ça passe tout juste, mais ça passe pour Justin Trudeau, qui sort en tête du scrutin législatif qui vient de s'achever au Canada. Le premier ministre libéral, dont la cote de popularité s'est largement effritée, usure du pouvoir oblige, devrait donc pouvoir former un gouvernement, mais cette fois-ci sans bénéficier de la majorité au Parlement. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour Charlotte,
bonjour à tous.
Les libéraux ont donc eu peur et ils s'en sortent finalement sans trop de dommages.
Oui, Justin Trudeau n'a pas la majorité, mais l'honneur est sauf. Il restera Premier ministre. Il lui fallait 170 sièges pour régner. Sans partage, il en aura un petit peu moins de 160. C'est largement suffisant pour garder son poste. Seul bémol, il devra s'appuyer sur sa gauche pour asseoir son pouvoir. Ici, on ne parle pas de coalition, même si cela y ressemble. Justin Trudeau, qui gagne de justesse et qui tire immédiatement les leçons du scrutin. Pour lui, les Canadiens veulent que leur Premier ministre s'engage dans la défense de l'environnement.
J'ai entendu votre message ce soir. Vous nous avez demandé de faire preuve d'encore plus de vision et d'ambition alors que nous nous attaquons au plus grand défi de notre époque, les changements climatiques. Nous allons avancer ensemble vers un avenir meilleur. Merci beaucoup tout le monde. Merci Montréal. Merci.
Les libéraux de Justin Trudeau qui gagnent et les conservateurs qui mordent la poussière. Leur leader Andrew Scheer se voyait Premier ministre, qu'il restera dans l'opposition. Il n'a pas su attirer les jeunes avec son discours très réactionnaire. Conséquence, tout comme son père avant lui, Justin Trudeau, libéral, garde le pouvoir, Fort Warriors, 4 ans de plus. Rendez-vous maintenant en 2023. À Montréal, Frédéric Héroux, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
En Israël, en revanche, la formation d'une majorité exécutive est bien plus complexe. C'est dans une vidéo postée sur le réseau social Facebook que Benjamin Netanyahou a annoncé jeter l'éponge après plus de 10 ans au pouvoir. Le Premier ministre israélien s'avoue incapable de former un gouvernement et laisse donc son rival Benny Gantz tenter à son tour de sortir de l'impasse politique. Il a 28 jours pour cela. Et puis en Bolivie, il devait y avoir un second tour inédit. Finalement, non, même si les opposants au président Evo Morales réclament que si, car après avoir annoncé une situation de ballot pour celui qui brigue un quatrième mandat, de nouveaux résultats partiels le donnent réélu dès le premier tour. La situation se tend dans tout le pays. Les partisans de Carlos Mesa hurlent à la fraude et des affrontements ont éclaté dans plusieurs villes. Ce devait être un procès monstre. Il a été évité de justesse pour 4 sociétés pharmaceutiques américaines poursuivies dans ce qu'on a appelé la crise des opiacés, à savoir la commercialisation en toute connaissance d'antidouleurs ultra puissants et addictifs par ces laboratoires qui ont donc finalement préféré le versement de plus de 200 millions de dollars au risque d'un procès pénal. Le scénario est en revanche différent pour ExxonMobil, géant américain de l'énergie, l'une des entreprises les plus riches de la planète, soupçonnée d'avoir trompé ses investisseurs en sous-estimant les risques financiers liés au changement climatique. Le procès s'ouvre aujourd'hui. ExxonMobil pourrait bien être condamné à rembourser les sommes indûment gagnées. À New York, Loïc Loury.
La plainte avait été déposée en octobre 2018 par le procureur général de New York. Derrière lui, des millions d'investisseurs américains qui estiment avoir été lésés par les pratiques trompeuse d'ExxonMobil. Le mastodonte du gaz et du pétrole, en effet, aurait menti en assurant avoir intégré dans ses comptes l'augmentation attendue du coût des émissions de gaz à effet de serre. Une fraude qui porterait sur des milliards de dollars, sans plus de précision. Le groupe, par ailleurs, aurait aussi promis qu'il serait peu affecté en cas de réduction par les autorités de la production et de la consommation d'énergie pour limiter le réchauffement climatique. Mais l'entreprise se défend. Elle évoque de fausses accusations et dénonce une enquête politiquement motivée, alimentée par des organisations anti-énergie fossile. ExxonMobil se dit en tout cas confiante quant à l'issue du procès. L'été dernier, le gendarme américain de la Bourse avait classé sans suite une enquête fleuve consacrée aux pratiques comptables de ce super géant américain de l'énergie. New York, Loïc Loury, France Inter.
Il est 8h10 en France, nouvelle échéance judiciaire pour Patrick Balkany aujourd'hui.
Et pas des moindres puisque c'est la remise en liberté du maire de Levallois-Perret qui se joue aujourd'hui. La demande qu'il a introduite juste après sa première condamnation à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale est donc examinée ce matin par la cour d'appel, quelques jours après, à peine après une deuxième condamnation. C'était vendredi à 5 ans de prison pour blanchiment aggravé. La cour d'appel a jusqu'au 13 novembre pour statuer sur cette demande de remise en liberté. Lui est jugé pour ne pas avoir dénoncé son voisin. C'est une très délicate affaire qu'a examinée aujourd'hui le tribunal correctionnel de Reims, celle de cet homme de 34 ans, renvoyé pour non-dénonciation de maltraitance. Lui qui vivait dans l'appartement situé juste en dessous de celui de Tony, 3 ans, mort en novembre 2016 des suites d'un énième déferlement de violence de son beau-père. Le voisin lui a entendu les cris, les coups, mais n'a pas, ou du moins pas suffisamment alerté Laure de Beaulieu.
Cet homme accorde plusieurs interviews dans les médias. Dans les semaines qui suivent la mort du petit Tony, il explique qu'il entendait l'homme frapper l'enfant. Pour Martine Brousse, qui est cofondatrice de La Voix de l'Enfant et partie civile dans ce dossier, on juge là un homme qui a fait ce qu'il a pu.
Cet homme, c'est vrai, il a été maladroit. Il n'a pas appelé au bon numéro. Il ne reste pas moins qu'il a essayé de faire quelque chose.
D'autres voisins, d'autres personnes étaient au courant des maltraitances que subissait Tony. Pour maître Olivier Chalot, l'avocat du père du petit garçon, il ne devrait pas être le seul poursuivi.
Il y en a plein qui ne sont pas dans le dossier, qui devraient y être. D'autres voisins, l'organisme de logement. On nous dit qu'on a informé l'organisme de logement d'un certain nombre de choses. L'organisme de logement dit maintenant non. Mais je pense qu'il devrait être là pour s'expliquer aussi.
L'avocate de l'association L'Enfant Bleu, Caroline Raymond, va plus loin. Pour elle, ce procès risque de décourager certaines personnes de dénoncer les maltraitances sur les enfants.
Ça risque évidemment d'inquiéter de potentiels voisins qui entendraient, mais n'oseraient plus dénoncer par peur de se retrouver là aussi mis en examen ou poursuivi dans un tribunal correctionnel.
La mort du petit Tony sera jugée par les assises de la Marne dans le courant 2020.
Qui, pour reprendre Thomas Cook, en France, le géant britannique du voyage organisé a mis la clé sous la porte il y a un mois et les candidats à la reprise de sa filiale française ont jusqu'à 19h aujourd'hui pour présenter leurs offres au tribunal de commerce de Nanterre. En jeu, les 417 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'entreprise, notamment grâce à sa filiale Jettour. La lutte contre l'immigration clandestine, thématique du voyage présidentiel qui débute aujourd'hui à Mayotte. Emmanuel Macron est attendu dans ce très jeune département français où la moitié de la population est étrangère, majoritairement venue des Comores voisines. Une immigration très précaire et qui a pour corollaire l'apparition d'immenses bidonvilles. Cyril Gradiani.
Des milliers de cabanes en tôle ondulée à perte de vue. Au milieu de tout ça coule un mince filet de rivière qui charrie son flot de déchets.
Alors on va dans un quartier qui s'appelle Mabourini.
Nawir nous sert de guide, il connaît le quartier comme sa poche, pour y avoir vécu en arrivant des Comores il y a 4 ans.
Parce que si j'étais là-bas, je ne pourrais pas continuer mes études. C'est menuiserie.
Ayouba est assis sous un haut vent de fortune. Il a connu le même parcours que Nawir et ses milliers de compatriotes comoriens. Depuis 2 ans, il s'en sort comme il peut. Pour rien au monde, Ayouba ne retournerait aux Comores, même s'il sait qu'il n'est pas le bienvenu à Mayotte. Crispation, inquiétude sont de plus en plus visibles dans la société mahoraise. Un collectif de citoyens s'est même monté pour dire stop à l'immigration clandestine. Estelle Youssoufa, sa présidente, attend plus de fermeté de l'État.
Pour que les Comoriens n'entrent pas à Mayotte, il faudrait qu'on ferme nos frontières, qu'on ait un bâtiment de la Marine nationale qui soit posté entre Mayotte et Anjouan de manière permanente, pas simplement quand le président Macron vient sur notre île.
Cette réalité, Emmanuel Macron va seulement l'entrevoir. Le président va surtout découvrir, en foulant le sol mahorais, une société éclatée. Pour montrer sa souffrance, le collectif des citoyens de Mayotte a même demandé aux habitants, en signe de protestation, de porter des vêtements blancs.
Cyril Gradiani à Mayotte, où on attend la visite du président Emmanuel Macron. Porte close pour les laboratoires de biologie en grève jusqu'à jeudi soir pour dénoncer les 170 millions d'euros de restrictions budgétaires. Restrictions imposées par l'assurance maladie pour 2020. Intenables selon ces laboratoires qui accueillent chaque jour près de 500 000 patients pour des analyses. La colère aussi des agriculteurs venus dire leur malaise, leur souffrance au travail, leur sentiment d'être déconsidérés dans leur métier. Ils se rassemblent aujourd'hui devant les préfectures à l'appel des syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs. Thomas Chollier, 27 ans, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs des Bouches-du-Rhône et éleveur de chèvres, en sera. Il est au micro de Corinne Blotin de France Bleu Provence.
Le ras-le-bol principal, on va dire, c'est l'agribashing, c'est-à-dire qu'on ne cesse de faire reposer tous les problèmes sur le monde agricole qui n'a cessé depuis ces 50 dernières années d'investir, de se réformer de l'intérieur pour pouvoir utiliser moins de produits, mieux gérer ses exploitations et mieux subir, on va dire, les catastrophes climatiques. Et ça, aujourd'hui, on n'a peut-être pas su assez bien communiquer dessus. Et les gens ne le savent pas. Et tous les problèmes qui arrivent, ce n'est pas de la faute des agriculteurs, comme on a tendance à vouloir malheureusement le penser.
La souffrance au travail, c'est aussi, encore, toujours la thématique de Ken Loach dans son dernier film. Sorry, I missed you, c'est son titre. C'est aussi le petit mot que laissent les livreurs quand ils trouvent porte close. Livreur, le métier du héros de cette nouvelle satire sociale du réalisateur britannique. Un métier qui a bien changé. Précarisation, ubérisation, selon le terme désormais consacré. Un phénomène décortiqué avec émotion et justesse par le très engagé Ken Loach. Eva Bétan.
Un couple, elle est aide à domicile, lui chauffeur-livreur, tous deux précaires, payés à la prestation, mais surtout ils ont l'air seuls au monde. Où sont les syndicats, les collègues, ou même un copain d'infortune avec qui, comme dans le formidable film Raining Stones, voler un mouton pour acheter une robe de communion, c'était en 1993. C'était très dur, les ravages de la politique Thatcher, mais il y avait encore des solidarités, une idée de classe sociale. Dans Sorry I Missed You, la concurrence instaurée entre les plus pauvres pour la survie ne permet pas le luxe de la fraternité, Ken Loach.
Et il n'y a plus d'idée de société finalement. Tout le monde est se bat pour lui-même. Et tout le monde est finalement en compétition avec tout le monde. Et ça a commencé ce système-là finalement sous Thatcher. Et ça n'a fait que progresser tout le temps, jusqu'à aujourd'hui.
La précarisation du travail qui fissure les solidarités, ce n'est pas un thème nouveau. C'était déjà là dans The Navigators, il y a près de 20 ans, sur la privatisation des chemins de fer britanniques. De même que Loach a montré des travailleurs de plus en plus isolés. En ce sens, l'ubérisation du travail que vivent ces héros actuels n'est que la suite d'un long processus.
Sorry, we missed you de Ken Loach, c'est à découvrir dès demain sur les écrans.
Merci Charlotte Piré.